Avant même de commencer la prédication, je voudrais tout simplement vous transmettre les salutations de l'Église baptiste d'Ilkirch. La prédication de ce matin porte sur un thème théologique majeur. Il s'agit, vous l'avez peut-être vu si vous avez pris le quad neuf et vous avez déjà regardé, du thème du jugement dernier, un sujet sans doute difficile et c'est une des raisons pour lesquelles je vous donnerai aussi tout à l'heure, après la prédication, l'occasion de réagir et il y aura donc un temps libre aussi de réaction, de questions éventuellement à la fin de la prédication. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans les différentes villes de France, nous avons un patrimoine très riche, surtout au niveau des bâtiments d'église et dans la plupart des grandes cathédrales, nous entrons en général par une très grande porte et il y a ce qu'on appelle le tympan juste au-dessus de la porte, c'est la partie qui est juste au-dessus de la porte. Avez-vous déjà remarqué ce qui en général se trouve sur le tympan de nos grandes cathédrales? Eh bien, une scène revient presque à chaque fois, c'est le jugement dernier. Alors peut-être c'était pas très joyeux, on entrait dans l'église déjà en voyant très solennellement des sculptures du jugement dernier. C'est le cas à Amiens, à Bourges, Notre-Dame de Paris, à Autun, à Chartres, à Reims, à Strasbourg et probablement encore dans beaucoup d'autres villes. Nous y retrouvons un juge divin, alors on peut voir là sur cette photo par exemple, nous y retrouvons un juge divin, des accusés, des avocats, des représentations du ciel et de la condamnation éternelle. Quelquefois, comme c'est, la plupart de ces églises sont des églises catholiques, nous retrouvons aussi Marie qui joue un rôle particulier, comme sur le tympan de l'église de Conques, qui sera celui juste d'après, mais je vais faire un petit commentaire sur cette photo-là. Vous voyez dans le cadre numéro 3, qu'il y a là un jugement qui est représenté sous la forme d'une balance avec un côté positif, un côté négatif. Vous voyez que du côté négatif, vous avez probablement des démons qui sont représentés et qui veulent tirer le panier de leur côté, mais que de l'autre côté, un ange empêche que l'âme bascule, on pourrait dire en quelque sorte, du mauvais côté. On n'est pas si loin avec de telles représentations de la notion d'un salut par grâce, puisque c'est par l'intervention, une intervention divine, que nous sommes sauvés. Voilà, dans la prochaine diapo, voilà, vous avez en fait, je ne vais pas tout commenter, mais les numéros après à chaque fois représentent des choses qui reviennent très très régulièrement. Le Christ entouré de la cour céleste, la résurrection des morts, le jugement dernier, le cortège des élus, l'entrée des élus au paradis, l'entrée des damnés en enfer, les supplices de l'enfer et les joies des élus au paradis. Mais lisons à présent ce que la parole de Dieu nous dit de ce thème. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse au chapitre 20, les versets 11 à 15. Donc Apocalypse chapitre 20, les versets 11 à 15, et je vous en ferai la lecture dans la version de la Bible second 21. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je me suis imaginé si demain, au travail, lors d'une pause café avec vos collègues, vous étiez amené à dire que vous étiez à l'église hier, donc si c'est demain, c'est aujourd'hui, quoi. Et qu'un de vos collègues vous dise « Ah bon, mais de quoi avez-vous parlé ?» Et que vous étiez obligé de dire « Le thème, en tout cas du moins de la prédication, était le jugement dernier. » Quelles seraient les réactions de vos collègues ?« Quoi, le jugement dernier ? Mais ne me dis pas que tu crois un truc pareil. » Ou bien, quelqu'un dirait peut-être « Mais tu m'avais pas dit que Dieu était un Dieu d'amour et là maintenant tu me parles que Dieu va juger et condamner des personnes ?» Mais c'est horrible. Ces diverses réactions, peut-être que d'autres diraient aussi, mais vous n'avez pas quelque chose de plus joyeux à aborder dans l'Église. Ces diverses réactions sont compréhensibles de la part de personnes qui ne connaissent pas Dieu et sa parole. Et moi-même, aussi ce matin, je suis bien conscient que ce n'est pas forcément le thème le plus joyeux à première vue. Mais par la grâce du Seigneur, j'aimerais que la parole de Dieu et l'Esprit Saint nous convainquent que le jugement final, ou le jugement dernier, hein, c'est synonyme, que le jugement final et l'espérance chrétienne sont largement compatibles, et même qu'une notion d'espérance qui n'intègre pas la notion de jugement est une fausse espérance, n'est pas la véritable espérance. Et j'aimerais évoquer avec vous ce matin plusieurs raisons pour lesquelles le jugement dernier est en quelque sorte aussi une bonne nouvelle. Et cela vous aidera peut-être à répondre aux questions de vos collègues demain à la pause café. Dans un film que j'ai vu il y a quelque temps maintenant, un homme politique véreux assassine une jeune femme qui avait découvert que cet homme politique vivait dans des magouilles financières. Et le pire, c'est que cet homme puissant avait réussi à faire passer le père de cette jeune femme pour son assassin. Et au moment où le père parvient à prouver son innocence en trouvant un alibi, ce père est fait assassiner par ce même homme politique puissant. Alors rien de réjouissant, vous allez me dire, mais tout le film, en fait, nous raconte ensuite comment un jeune avocat va se battre contre cet homme politique corrompu. Et ce qui est intéressant dans ce combat, c'est que cet avocat est animé par une soif de justice, pas de vengeance, de justice. Il souhaite que la vérité éclate au grand jour et que la vie de ces deux personnes soit reconnue. Il entre dans une quête de justice. Il ne tolère pas que ces deux personnes assassinées l'aient été en toute impunité. Sinon, ça serait comme si la vie de ces personnes ne comptait pas, n'avait aucune valeur. Sans jugement final, nos vies n'ont aucune valeur. Et c'est même pour cela que, quelquefois, des dizaines d'années encore après les faits, des personnes sont jugées coupables pour ce qu'ils ont fait. Parce que les vies humaines ont de la valeur, il nous faut un procès et un jugement. Et là, le texte nous dit « Je vis les morts, les grands et les petits comparaissant devant le trône. » Pourquoi cette précision « les grands et les petits » Parce que justement, dans toute la Bible, il nous est dit que Dieu est un Dieu impartial. Il ne fait pas de différence, il ne fait pas de favoritisme, il ne favorisera pas les riches ou les puissants. Dieu observe la conduite de tous les hommes et il a le regard sur tous leurs faits et gestes. Aujourd'hui, on parle de la vidéosurveillance et de ce que ça peut engendrer comme perte éventuellement de liberté au niveau de l'image personnelle, etc. Mais il y a, en tout cas, même dans les rues où il n'y a encore pas de surveillance vidéo, toujours les caméras de Dieu braquées sur nous. Dieu a le regard sur tous nos faits et gestes. Personne n'échappe à son jugement. Même la mère a rendu les morts, le royaume des morts aussi. J'ai entendu à la radio il y a quelques mois qu'un bourreau, ayant tué plusieurs enfants, s'est donné la mort en prison. Et le père d'une des victimes disait « Mais Nous n'avons plus aucun espoir parce que s'il n'y a pas de procès, pas de jugement, qui va reconnaître la valeur de nos enfants ? Qui va défendre leurs droits ? Ce sentiment, vous l'avez peut-être vécu si vous avez été victime d'une injustice. Cela est inacceptable. Nous avons tous soif de justice. En France, d'après les chiffres de 2018, parce que les chiffres de 2019 ne sont pas encore sortis, mais il y a 67 000 avocats en France. 67 000 avocats. En Île-de-France, le nombre d'avocats a augmenté de 38% ces 10 dernières années. Vous trouvez ces chiffres facilement sur Internet. Il y a près de 9 000 juges et le nombre ne cesse d'augmenter. Et il y a même un site, trouvezvotreavocat.com. Pourquoi ? Parce que nous avons tous soif de justice. Il est hors de question que je sois lésé de mes droits. Je veux être défendu. On veut à tout prix être défendu. S'il y a un sentiment que nous partageons tous, c'est probablement ce sentiment de justice, cette soif de justice. Regardez dès le plus jeune âge les enfants, comme la façon dont ils réagissent, par exemple, dans la cour de récréation, quand un des autres enfants ne respecte pas la règle. Maîtresse, il a triché ! Maîtresse, il a triché ! Tout le monde se plaint. Depuis la tendre enfance, nous sommes habités par un désir de justice. Que ressentons-nous lorsqu'on nous double à la caisse du supermarché ? Ou encore, pourquoi sommes-nous quasiment incapables de faire du sport, notamment le football, sans un arbitre, et même plusieurs arbitres, et maintenant la vidéosurveillance même sur les terrains ? Et cela, y compris même pour les matchs dits amicaux. Vous êtes déjà posé la question ? Je veux la justice, je ne veux pas être lésé, et je veux la justice d'ailleurs surtout quand c'est pour moi. Alors c'est parfois égocentrique, mais la soif de justice est aussi la marque que nous avons été créés à l'image de Dieu. L'idée de justice en nous, qui est innée, nous ne l'apprenons pas, est une bonne chose. Elle est une bonne chose car elle nous rappelle que le bien et le mal sont deux réalités différentes et qui existent bel et bien. Au verset 12, nous lisons que des livres furent ouverts. Les morts furent jugés, chacun selon leurs actes, en suivant ce qui était inscrit dans les livres. Le jugement final n'aura pas lieu sur des rumeurs ou sur des soi-disant que. Le jugement dernier est prononcé en fonction des livres où sont inscrits tous nos faits et gestes. Il n'aura rien d'inventé d'écrit dans ces livres. C'est exactement ce que nous aurons fait. Nous serons jugés selon des actes, selon des faits. Nous ne pouvons pas souhaiter plus juste qu'un tel jugement. Tout au long de la Bible, vous le savez sans doute, Dieu est décrit comme un juge à maintes reprises. Quelquefois, Dieu juge immédiatement. On a des textes où, aussitôt faute, aussitôt jugement. On a des textes aussi où Dieu utilise parfois un peuple pour un autre peuple, une personne pour une autre personne. Dieu utilise aussi la justice des hommes, aussi imparfaite soit-elle, pour accomplir sa justice. Mais le jugement final est particulier parce que la Bible affirme que Dieu a remis le jugement entre les mains de son Fils Jésus. Et ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Le jugement final est une bonne nouvelle car c'est Jésus qui sera le juste juge. Écoutez ce que dit Paul aux Athéniens dans Actes 17. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts. Et Paul dit aussi en Romains 2, verset 16, « Voilà ce qui paraîtra au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce qui est caché dans la vie des hommes, comme l'affirme la bonne nouvelle que j'annonce. » Le juge ne sera pas quelqu'un de froid. Le juge nous aime. On ne sera pas dans un système judiciaire anonyme ou impersonnel, car Jésus nous connaît. Qui mieux que Jésus pourrait remplir un tel rôle ? Il est difficile pour beaucoup de personnes d'admettre que Dieu puisse être amour et juge en même temps. Mais ne soyons pas dupes, c'est l'influence de notre société qui rend ce sujet difficile. Il n'était pas gênant, il y a quelques siècles, de sculpter en haut des portes de toutes les églises des scènes du jugement dernier, avec des représentations de l'enfer. Comment ça se fait qu'on ait tant de mal avec cette notion de jugement ? Quand vous regardez l'histoire humaine, il y a toujours eu, à peu de choses près, la notion de jugement final. Ça n'a jamais réellement posé de problème à qui que ce soit jusqu'au XXe siècle. Avant le XXe siècle, le discours communément admis, c'était « tu peux peut-être t'en tirer ici-bas, mais tu ne t'en tireras pas là-haut ». Comment se fait-il qu'on ait du mal avec cette notion de jugement ? Cela devrait nous faire réfléchir. Ne pensez-vous pas que ça serait pire d'affirmer que Dieu est amour et juste, mais qu'à la fin, au bout du compte, tout se vaut, qu'à la fin, nazi, terroriste, tortionnaire, matérialiste à outrance se côtoieraient avec tous ceux et celles qui ont vécu à l'opposé ? Ne pensez-vous pas que ça serait encore pire s'il n'y avait pas de jugement final, si la valeur de la vie de millions de personnes n'était pas reconnue à la fin ? La bonne nouvelle, c'est que le juge est aussi celui qui est l'avocat, le sauveur et l'avocat. Celui qui exercera la justice est aussi celui qui a payé le prix de la justice. C'est ce que nous dit Paul en Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Alors est-ce que l'acte de justice est à venir ? Non. L'acte de justice a été établi il y a déjà 2000 ans. Il y a 2000 ans, Jésus a effacé l'acte qui nous accusait. Le prix de la justice divine a déjà été payé. Et c'est le juge qui a payé le prix. Vous voyez pourquoi Jésus est un bon juge. Il n'est pas un juge qui va se réjouir et dire « Tout le monde, chouette, tout le monde, en prison !» C'est un juge qui a tout fait pour que je n'aille pas en prison. C'est un juge qui a tout fait pour que je ne connaisse pas la condamnation éternelle. Voilà le juge qui va me juger. Alors même si le jugement peut me faire peur dans un certain sens, parce que je suis conscient de ce qu'il y a écrit dans les livres, il y a une bonne nouvelle, il n'y a pas que les livres, il y a aussi un livre. Et le texte que nous avons lu fait bien la distinction. Des livres furent ouverts et ensuite un livre, le livre de vie. Dans les livres, il y a écrit ce que j'ai fait, les bonnes et les mauvaises actions, les bonnes et les mauvaises choses. Dans les bonnes choses, on pourrait par exemple mentionner « j'ai été fidèle à ma femme, je suis allé à l'église, j'ai essayé de faire le bien, mais ça ne fonctionne pas comme une balance. Je sais qu'il y a des actes où j'ai manqué d'accomplir ce que Dieu voulait pour moi et je ne pourrai jamais compenser l'offense que j'ai faite à Dieu, la dette contractée envers Dieu. Le seul moyen, c'est que quelqu'un d'autre satisfasse la justice de Dieu mieux que moi. Et c'est ce qui est écrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie, il est écrit ce que Jésus a fait pour nous. Et dans ce livre de vie, il est écrit les noms de tous ceux qui sont sauvés par sa mort à la croix. Tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Tous ceux qui vivent maintenant dans le royaume de Dieu. Le jugement final ne nous prendra pas par surprise, car le jugement final ne fera que dévoiler la décision que j'ai prise ici-bas, dans mon cœur. Dieu est juste, mais Dieu a tout fait pour que mon nom pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Alors quelquefois on se pose la question, mais est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie ? Je voudrais vous poser les questions suivantes. Quand tu regardes la croix, as-tu de la reconnaissance et de l'amour pour celui qui est mort à ta place pour te réconcilier avec Dieu ? Si oui, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Quand tu prends le repas du Seigneur, que ressens-tu ? Arrives-tu à te souvenir de la valeur de ce que Jésus a fait pour toi, pour te pardonner ? Si tu as cette conscience-là, alors ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais si cela ne te fait ni chaud ni froid, il faut peut-être se poser la question. Il y a un piège aussi dans la vie chrétienne. C'est que nous sommes tellement focalisés sur ce que nous n'arrivons pas à faire que nous oublions ce que Jésus a fait. Seigneur, je n'ai pas réussi à lire ma Bible tous les jours. Seigneur, je n'ai pas réussi à prier comme je le voulais. Je n'ai pas réussi à parler de ma foi à mon voisin. Regardons d'abord à ce que Jésus a fait pour nous. C'est vraiment très important. Regardons à ce que Jésus a fait avant tout. C'est lui qui est la bonne nouvelle. Il a annulé l'acte rédigé contre nous il y a 2000 ans, donc ce que nous faisons aujourd'hui en 2019 est déjà réglé. Alors vivons dans la reconnaissance et que le Seigneur nous aide à vivre par la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous et avec lui. Le salut, c'est ce que Jésus a fait, pas ce que nous avons fait. Et le salut, c'est accepter ce que Jésus a fait pour nous. L'attitude du chrétien peut vraiment se résumer ainsi. C'est comme Dieu m'a aimé alors que j'étais encore pécheur, je veux aimer Dieu et mon prochain. Mais c'est absolument pas je veux aimer Dieu et mon prochain pour être sauvé. C'est parce que Dieu m'a aimé alors que j'étais encore pécheur que je suis sauvé et qu'à mon tour, je vais suivre l'exemple de Jésus-Christ et aimer Dieu et mon prochain. Autre bonne nouvelle encore, le jugement dernier sera la fin du mal et de l'injustice. Aujourd'hui, le mal continue car notre cœur bafoue la justice. Mais un jour, ça sera la fin. Un jour, l'injustice et le mal vont prendre fin. Et ça, c'est une excellente nouvelle, car l'injustice est cause d'énormément de souffrance, et c'est terrible tout ce qui se passe. Mais un jour, vérité, amour, justice, harmonie, bonté, bienveillance habiteront la terre. Et là, ce jour-là, ce sera une explosion de joie, quelque chose qu'on n'a jamais connu sur cette terre. Il y a comme une chape de plomb qui va s'enlever de l'humanité entière. Et cela est un puissant encouragement pour notre foi. Bien sûr, nous le savons, la parole de Dieu le dit, Satan et tous ses acolytes, tous ceux qui auront préféré soit Satan, soit leur propre justice, recevront ce qu'ils auront choisi. Mais tous ceux qui auront choisi la justice de Jésus-Christ hériteront de l'espérance. Et c'est à ce moment-là, quand tout le mal aura été jugé, que la nouvelle création pourra enfin venir. Le Seigneur ne peut pas revenir et instaurer une nouvelle création sans juger l'ancienne, sans être juste avec tout ce que les hommes et les femmes ont fait. Avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe, il faut un jugement final pour ouvrir la porte à l'éternité, la nouvelle création. Si tu es déjà sauvé et que par conséquent ton nom est inscrit dans le livre de vie, je veux te dire comme Paul l'a écrit, fais le bien sans te laisser gagner par le découragement, car si nous ne nous relâchons pas, si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Si tu es en cheminement, je voudrais te poser la question, Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui le jour de confier sa vie au Seigneur ? Lui qui a tout donné. La parole de Dieu nous dit, il ne faut pas mépriser les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu sans nous rendre compte que cette bonté aussi nous appelle à une décision personnelle et un changement de vie. Celui qui refuse de changer de vie, celui qui refuse de confier sa vie au Seigneur, se prépare lui-même un châtiment pour le jour où se manifestera le juste jugement de Dieu. J'essaie de dire avec un maximum d'amour un thème comme celui-ci, et je suis conscient qu'on l'aborde, on le connaît ce thème, mais on l'aborde finalement assez peu dans les églises. Mais il y a une bonne nouvelle et un avertissement trop important pour ignorer de tels textes. Alors si tu n'as pas encore fait le choix de la confiance en Jésus, ce matin, cesse de résister à ce qui te retient, peut-être de placer pleinement ta confiance en Dieu et accepte ce que Jésus a fait pour toi. Saisis cette bonté, saisis cette générosité et cette grâce. Amen. Comme promis, je vous laisse maintenant un temps. Si vous avez des questions, des réactions, ça nous permet de partager encore ensemble, de nous approprier encore mieux peut-être le message de ce matin. Oui, tout à fait, on est sauvé par grâce, mais depuis la chute, l'humanité est perdue. Donc j'ai envie de dire, on pourrait dire, oui. Oui. Alors les récompenses, ben, c'est encore mieux, effectivement, c'est non seulement nous sommes sauvés, déjà ça c'est la grâce, mais en plus on va recevoir des récompenses pour des œuvres que Dieu aura faites à travers nous et à travers l'Esprit qu'il a mis en nous. Vous connaissez peut-être cette phrase, Dieu donne ce qu'il ordonne, et puis certains rajoutent, il couronne ce qu'il donne. Donc ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu me permet par sa grâce de faire et d'avoir saisi de lui et de vivre ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance et que j'accomplis sans aucun mérite non plus quelque part, puisque c'est Dieu qui les a préparées d'avance, je vais être récompensé pour ça. C'est quand même incroyable. C'est une double grâce, quoi. Oui. À l'inverse, dans notre société aussi, les représentations de l'enfer, qui quelquefois sont presque présentées comme un lieu de plaisir, et même avec une, justement, où on pourrait pécher en toute joie et toute bonne conscience, ce n'est absolument pas ça. Ok, merci.